Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs, auditrices de Rage, voix de jeunes, bonjour à toutes. Merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro de l'émission Café des Libertés. À l'occasion du nouvel an, au nom de toute l'équipe de la Radio Rage, je vous souhaite une bonne année, une année de paix, de bonheur, de prospérité, ainsi que à tous les Algériennes et les Algériens, que la paix règne dans le monde. Et à cette occasion, de nouveau numéro de Café des Libertés, cette année, au début de cette année 2017, on va le consacrer à l'année 2017, une année riche en événements dans l'Algérie, qui a connu l'Algérie sur différents secteurs, allant de la crise économique, de la question des droits et des libertés en Algérie, mais aussi la question de la crise économique et sociale, pour beaucoup d'occasions qui aurait dû être une occasion pour une bonne gouvernance, pour que l'Algérie avance. À cette occasion, nous avons invité parmi nous Idir Achour, secrétaire général du CLA, Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, El Zahouen, Hafida Amiar, journaliste au quotidien Liberté, Fersawi Abdelouhab, président de l'association Azar, Chambre de l'Action Jeunesse. Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue. Donc, que vous inspire l'année 2016 ou que retenez-vous de l'année 2016 pour commencer?
Eh ben, l'année 2016 est une année comme toutes les autres années, qui est caractérisée par l'approfondissement de la crise entamée depuis des années en Algérie. Mais des événements m'ont marqué, c'est-à-dire au cours de l'année 2016 dans le secteur de l'éducation, particulièrement deux événements majeurs. Le premier événement, c'est la marche historique pour la dignité des contractuels de plus de 250 km. Et la répression, et la répression qu'ils ont subie à la fin de cette action, malgré les acquis qu'ils ont eus, on n'a pas pu les capitaliser comme il se doit, mais ça reste ça marque quand même l'année 2016 en termes d'événements qu'a connu l'Algérie. Deuxième événement qui m'a marqué, c'est la création du Front syndical qui a commencé sa lutte contre la loi de finances 2017, contre la révision de la loi sur la retraite et contre l'avant-projet du travail,
du code du travail
qui se prépare pour l'année 2017. En tous les cas, c'est une année de résistance, beaucoup plus que d'offensif du mouvement social pour avoir plus d'acquis. C'est une année qui nous amène dans la défensive beaucoup plus que dans l'offensif, mais on remarque beaucoup plus qu'il y a un offensif des pouvoirs publics sur tous les acquis qu'on a eus depuis des années.
En fait, c'est une année pour vous, tant qu'acteurs du syndicat, des syndicats de l'éducation, c'est une année beaucoup qui a été beaucoup de défis aussi, comme vous le dites, c'est une année qui est très offensive du côté des pouvoirs publics. Donc et aussi, ça nous interpelle aussi sur le rôle des mouvements sociaux. Donc, c'est les atteintes aux libertés ou d'actions associatives.
Je pense que 2016, il ne diffère pas d'autres années, mais aussi, c'est une année charnière quand même. C'est une année charnière parce que 2016, elle marque déjà le début d'une crise. Une crise financière, une crise économique, mais aussi une crise politique. C'est-à-dire la crise politique, maintenant, elle est vraiment mise en avant. Et ça, je pense que c'est une année charnière. Et 2016 va marquer un autre tournant dans l'histoire de l'Algérie. Et on aborde maintenant 2017, on voit déjà les prémices. Mais 2016, je vais dire aussi que 2016, c'est une année, Nida, on a vu justement le gouvernement s'attaquer au dernier espace d'expression qui sont les réseaux sociaux, Facebook. On a vu une attaque systématique contre toute expression hostile, sinon indépendante du Facebook. On a vu beaucoup de blogueurs qui ont été attaqués, qui ont été poursuivis en justice. Et le dernier, ça a culminé par la mort carrément d'un des blogueurs qui est Talmat, qui est vraiment un antécédent grave de l'histoire de Tibourt Zel. Je parlerai au moins sur le plan humanitaire. Laisser un prisonnier mourir d'Ilhevs en plein grève de la faim, c'est-à-dire qu'on a atteint le summum de la répression, pas seulement de la répression, du cynisme et du mépris aussi.
Donc, du mépris,
le CNS, c'est comme si Mekanoualo, alors que c'est quand même un prisonnier qui est entre les mains de l'État et qui doit être protégé. Donc,
à ce propos, j'aimerais un peu nuancer parce que la question effectivement de Tezmelt, la responsabilité, ce n'est pas uniquement le pouvoir. Effectivement, le pouvoir a une grande responsabilité dans la mesure où une personne a été mise sous verrou et elle a été complètement abandonnée alors qu'il était malade, etc. Mais il faut dire que les associations ou les organisations dans la société n'ont pas aussi joué réellement leur jeu. Il y a eu des défaillances à ce niveau-là, y compris dans le milieu de la presse ou le milieu des médias en général.
C'était en 2016, c'était une année un peu ça clignote aussi sur tous les Darois. Donc même si le cas de ça a mal terminé, donc avec le cas de Tamel, tu sais, c'est un cas particulier.
Bien sûr,
pour les associations, pour les acteurs de la société civile, ça ne m'a pas été bon, je pense.
Comme il a dit Achor, donc l'année 2016 n'est pas vraiment différente des années précédentes, mais 2016 vraiment, on est arrivé à un certain niveau quand même qu'on ne peut pas aller au-delà sur tous les plans, et comme on vient de dire, la question des libertés, les violations des droits humains, l'affaire de la mort du journaliste Tamet. Effectivement, je partage l'avis de Hafida. Oui, il y a le pouvoir qui assume la responsabilité, mais aussi pour nous, en tant que société civile, en tant qu'élite, qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher à ce que cela puisse arriver. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a d'autres Tamelt, il y a d'autres prisonniers, d'autres militants qui sont en prison. Et jusqu'à présent, on n'a rien fait. Donc, est-ce qu'il faut attendre à ce qu'ils soient menacés, ça veut dire de mourir, pour qu'on puisse intervenir, puisque l'intervention, un petit communiqué, une dénonciation, donc voilà, c'est une solidarité virtuelle, que je qualifie de solidarité virtuelle. Mais aussi, moi, à l'année 2016, le discours de Premier ministre, Sillal, ça veut dire, et c'est un indicateur, il est là pour rassurer que tout va bien, alors que juste après le discours, on a vu ce qui s'est passé à Béjaïa. Donc voilà, c'est aussi l'événement les événements survenus à Béjaïa après la grève des commerçants. Quand même, c'est un indicateur fort de la situation que vit l'Algérie, de la crise profonde que vit l'Algérie sur tous les plans. Politique, économique et sociale. Bon, on peut revenir après dans les débats sur cet événement à Béjaïa. Sinon, effectivement, il y a des événements comme porteurs d'espoir, comme la marche de la dignité des contractuels, le mouvement de l'intersyndical. Quand même, il y a de la résistance sur le terrain.
Non, effectivement, la résistance existe, mais j'ai envie de dire, c'est-à-dire il faut faire la différence, c'est-à-dire quand on incrimine le mouvement de la société civile, etc., c'est-à-dire il faut faire la différence, le mouvement de la société civile, il est là, il fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir de décision.
Je n'ai pas incriminé personnellement.
Oui, c'est-à-dire des fois, on se fait des remords moraux, on essaie de changer de cible, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement majeur, on dit où sont les ligues des droits de l'homme, où est la société civile, où sont les syndicats, où sont les partis de l'opposition. Je crois qu'on doit éviter ce discours. La responsabilité incombe à celui qui a le pouvoir de décision. Ça, il faut le dire. Le reste, c'est un travail d'appui, d'aide et de solidarité. On ne peut pas exiger de quelqu'un plus de solidarité que ce qu'il possède. C'est-à-dire, je peux incriminer quelqu'un quand il a un pouvoir à mettre en place et il ne le met pas. Je le condamne. Mais pourquoi ne pas avoir fait ça?
Mais quand on voit que les gens
font ce qu'ils peuvent,
c'est-à-dire
les responsables.
Nous disons qu'en Algérie, il y a soi-disant une classe politique, c'est-à-dire il y a des partis politiques. Normalement, je suis désolée. Peut-être que la société, il y a un manque encore d'organisation, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce retard dans la réaction. Mais il y a des partis politiques qui devaient prendre position, qui devaient interpeller, qui devaient même faire pression, normalement, sur le régime algérien. Ça n'a pas été fait. Et même dans la presse, il a fallu qu'il y ait un communiqué. Le bonhomme, il est mort. Je ne veux pas dire que c'est fait exprès. Des fois, c'est vrai, on est pris par les problèmes de tous les jours. Je le prends, c'est-à-dire je prends mon cas, Naya. Ça ne veut pas dire que j'étais indifférente au cas du journaliste. Mais il y a mille et une choses à faire au boulot et dans la société et tout. Et effectivement, on l'a oublié quelque part. Malheureusement.
Moi, je pense que pour le cas, pas seulement de Telmat, mais pour beaucoup d'autres cas aussi, je pense que la société civile a fait ce qu'il pouvait faire. Parce que la société civile elle-même est déjà menacée. Nous-mêmes, société civile, on est presque dans le même carré que Telmat, que d'autres aussi. La société civile, aujourd'hui, il est réduite à sa simple expression. Il faut voir aussi toute la difficulté qu'affronte aujourd'hui la société civile pour bouger, on en parle chaque jour. Aujourd'hui, la société civile est réduite vraiment à de la figuration et le peu d'associations, de syndicats, d'organisations qui essayent de résister, elles subissent une répression terrible sur tous les plans, sur le plan légal, juridique, financier, sur le plan même de l'activité. On est quand même face à un gouvernement, face à un régime aujourd'hui qui a accumulé des pratiques, même des relais dans la société elle-même, qu'aujourd'hui la société civile elle est vraiment en phase de difficulté. Il ne faut pas oublier aussi les lois. On a parlé, Abel est là, on a parlé à chaque fois de la loi des associations qui aujourd'hui reste un frein au développement de la société civile.
En fait, la société civile elle est face à un dilemme, c'est-à-dire des lois répressives telles que la loi de 2006, et aussi face au dilemme d'elle-même, c'est-à-dire se réorganiser pour pouvoir faire face à des défis, à les défis de l'heure qui sont effectivement un prolongement de...
La société civile, à mon avis, est réduite à la résistance. On est dans la résistance. On est encore dans la survie. On est encore vraiment dans un truc de survie. On essaie de rester encore, essayons moins de répondre à certaines exigences, à certaines urgences. Et jusqu'à maintenant, la société civile a été dans la réaction. On n'a jamais été dans l'initiative, on n'a jamais été dans... C'est vrai, ça, mais il faut reconnaître les faiblesses de la société civile, pas seulement la société civile, mais aussi la société politique. Mais moi, je ne partage pas aujourd'hui, on a vu à Béjaïa, je ne partage pas aujourd'hui de dire que la société civile a failli. Il y a des responsabilités qu'il faut situer encore une fois. Il y a aujourd'hui une manque de volonté d'abord de reconnaître la société civile en tant que partenaire, en tant que, justement, acteur dans le développement, y compris des partis politiques. Après, il y a des responsabilités, bien sûr, que chacun doit assumer à son niveau. Ça, bien sûr, on est conscient. Nous-mêmes, on a toujours fait notre bilan, on a toujours fait notre mea culpa. On est conscient de nos faiblesses. Et c'est pour ça que, collectivement, on essaie de construire des espaces de convergence.
D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un élément important qu'il faut faire, que le rapport de force, on n'arrive pas. La société civile, le seul atout que l'on a, c'est le rapport de force. Il n'arrive pas à construire ce rapport de force et c'est à ce niveau qui est condamnable. C'est qu'on peut remettre en cause la crédibilité du mouvement social que nous représentons, on peut remettre en cause notre représentativité en tant que personne, notre crédibilité, etc. C'est important de souligner ça. Moi, ce que je retiens en 2016 et ce qui m'a fait beaucoup plus mal, c'est que le seul espace qui reste en Algérie, qui était Béjaïa, on vient d'être empêché, la Ligue, on elle-même, de faire la journée mondiale universelle des droits de l'homme au niveau de la Maison de la Culture. Encore pire, à Tichy, on a refusé de lui donner l'autorisation de tenir une réunion. C'est que maintenant, le seul espace où on pouvait céder, où il y avait un rapport de force, ils sont attaqués à ça. On doit poser la question, pourquoi, c'est-à-dire à ce niveau, en termes de rapport de force, est-ce que le fait qu'on n'a pas réagi, on ne laisse pas l'État avancer sur ce terrain? C'est que des fois, on se laisse faire, mais on paye très cher après ce qu'on a laissé faire. Mais c'est très important, c'est-à-dire des fois de revoir l'histoire. Deuxième élément que j'ai envie d'ajouter, c'est que la médiation sociale n'a jamais été prise en considération en Algérie. Il y a eu une médiation sociale qu'ils utilisent toujours avec les organisations de masse de l'ancien réflexe du parti unique. Il continue à travailler avec ça, mais par contre, quand il y a un mouvement social, quand il y a une explosion sociale, c'est là que le gouvernement se réveille et ils appellent. Avec les événements de Béjaïa et le mouvement des élèves, etc., ils commencent à reconsidérer les syndicats autonomes, etc., et à appeler au dialogue, etc. D'ailleurs, c'était l'objectif de la dernière rencontre avec la ministre, mais où il fallait répondre non. Je ne vais pas être à ton service. Aujourd'hui, tu ne vas pas m'utiliser. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure.
La force du mouvement syndical, c'est leur dynamisme.
Voilà, qu'ils veulent faire de nous des pompiers uniquement. Voilà, en tant que société civile, en tant qu'acteurs syndicaux, que normalement, on est là, on représente un contre-pouvoir. On n'arrive pas à être encore un véritable contre-pouvoir qui s'impose par le rapport.
C'est-à-dire, prend un peu de la distance par rapport à tous ces problèmes-là, c'est vrai que le pouvoir, il est toujours dans son ancienne logique. Il avait l'habitude de régler des problèmes ou des conflits en interpellant ou en sollicitant ce qu'on appelle les notables. Or, ça ne marche plus dans la société à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'influence, mais elle n'est plus ce qu'elle était. Deuxièmement, il avait aussi affaire à l'UGTA. Comme c'était au temps du parti unique, effectivement, l'UGTA, il faisait appel à elle pour calmer un peu le milieu de professionnel, etc. Ensuite, l'UGTA a commencé à jouer le rôle de pompier, et ça se poursuit à ce jour. Et donc, c'est peut-être dans ce sens que les syndicats autonomes, c'est-à-dire voient comme quoi on fait appel à eux pour jouer le rôle de pompier. Mais en même temps, ce qui est aussi contradictoire en Algérie, c'est que nous avons une tripartite où il y a trois parties, donc le gouvernement, le patronat et le syndicat. Or, le syndicat, c'est uniquement l'UGTA. Ce n'est pas normal. Je soulève ce problème-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'annonce par le Premier ministre Sillel qui dit comme quoi, en mars prochain, il y aura la tripartite. Oui, mais une tripartite avec des parties avec lesquelles il avait l'habitude. Oui,
L'unipartite.
C'est des allégeances. On ne peut pas avancer effectivement de cette manière.
En fait, on ne peut pas se surpasser de la société, de ses acteurs pour effectivement pour la crise économique et sociale, mais aussi vous avez évoqué Achor, on va revenir plus tard à cette question, à la crise économique et sociale aussi, au discours aussi du Premier ministre, mais je reviens à la question de l'éducation, parce que le Premier ministre, dans son intervention, il a fini par dire tout va bien en Algérie, on avance. Mais réellement, c'est-à-dire la force d'un pays, c'est son éducation, c'est son système éducatif qui est modèle, qui a une vision à moyen terme et à long terme.
Je crois que les termes ont leur sens et leur objectif et leur intérêt, mais le Premier ministre a le droit de dire ça, que ça avance par rapport aux intérêts qu'elle défend, ça avance par rapport au patronat, ça avance par rapport...
Mais quelle est la vision du syndicat autonome, le syndicat du CLAC que vous le présentez, tel que il y avait des discussions avec le ministère sur essayer, parce que les dernières années, le système éducatif national...
On s'exprime, on dit ce qu'on pense, on le dit, on l'écrit, c'est-à-dire sur le sujet, donc pour nous, ça avance pas. Mais quand ça avance pas pour nous, ça avance pour eux. C'est ce qu'il faut comprendre.
Mais qu'est-ce qui n'avance pas dans ce système éducatif?
Au-delà du système éducatif, moi je pense que le gouvernement a menti depuis longtemps sur le peuple algérien. Déjà, il a menti par rapport à la crise économique elle-même. Au moment où beaucoup d'économistes faisaient des alertes, justement, tout le monde savait qu'on va droit au mieux. Tout le monde le disait qu'avec la politique menée par le gouvernement durant l'aisance financière, quand on avait les moyens, tout le monde disait cette politique va nous mener droit au mur. Et le gouvernement, à travers justement le Premier ministre, disait que tout est bien, on a les moyens de surpasser la crise, la Gérie va bien, tout va bien. Et à l'époque aussi, le Premier ministre disait que la Gérie, c'est une question de souveraineté nationale, on ne va jamais recourir à la dette extérieure. Ça a été dit comme ça. C'est une question de souveraineté nationale. Alors qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une crise.
Le Conseil des ministres vient d'adopter...
Exactement. Il vient d'adopter un prêt de la Banque africaine. Voilà justement les mensonges. Et voilà justement les mensonges que le gouvernement aujourd'hui doit assumer.
Oui, mais ces mensonges, d'où viennent-ils? Comment s'expliquent-ils? C'est-à-dire, c'est bien beau.
Oui.
C'est-à-dire, je n'ai rien de contre ce que vous êtes en train de dire.
Oui,
mais... C'est-à-dire le constat, tout le monde le connaît. Oui. Mais ce constat, pourquoi il s'impose aujourd'hui? Parce que nous avons affaire aujourd'hui à un régime qui n'a pas l'habitude de négocier avec cette société. D'où l'absence d'organisme, de médiation, de rapprochement, de véritable dialogue, etc.
C'est une question de volonté, c'est une question de volonté politique. Le gouvernement refuse de dialoguer. C'est pas une question qu'il y existe. Les syndicats autonomes sont là. Ils n'ont jamais été conviés à la tripartite. C'est une décision et c'est une volonté. Les mécanismes de médiation, la société civile qui est encore là, qui fait ce travail de médiation, dans les moments les plus difficiles, le gouvernement refuse de leur tendre ni l'oreille, ni la main, ni leur ouvrir justement. Parce que c'est comme ça, c'est décidé comme ça. Le gouvernement aujourd'hui refuse de reconnaître la société civile. Et on le voit, et dans l'esprit, et dans la lettre. On le voit dans la loi, on le voit dans la loi.
Il ouvre la main. Mais en fait, dans certains secteurs, effectivement, le secteur particulièrement syndical, politique, etc., où il y a effectivement de grands problèmes. Il ne faut pas généraliser. On est en train de parler à des gens qui sont en train de nous écouter et tout. Il y a et il y a. Effectivement, la situation... C'est-à-dire, en termes de bilan, bon, ça n'engage que moi, bien sûr, ce que je suis en train de dire. C'est vrai qu'il y a, il y a une offensive, aujourd'hui, libérale, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Oui. D'ailleurs, on est en train de parler, le dernier discours, moi, personnellement, ce que j'ai retenu, pendant plus d'une heure, lors de l'émission, il parle, il dit que la politique du président de la République n'est pas contre l'immobilisme, c'est-à-dire qu'il y a de l'immobilisme dans cette société. Il dit que les sociétés stratégiques ne risquent pas d'être privatisées comme la Sonelgaz ou la Sonatrach, c'est-à-dire qu'il y a un risque, c'est comme ça que je le vois. Il dit qu'il y a maîtrise de la situation, or on voit qu'il y a vraiment du bâclage et de la rôle. Et il dit maintien de la politique sociale de l'État et nous sommes une république démocratique et sociale. Nous ne sommes ni une société, donc, ni une république démocratique, sociale. Effectivement, il y a des acquis, mais ces acquis, aujourd'hui, sont plus que jamais menacés.
En tant qu'Abdelwahab, en tant qu'un des acteurs de la société civile, qu'est-ce qui fait que l'Algérie, depuis des années, on est face à une société, comme disait Hafeda, qui subit, mais qui fait uniquement du constat.
Justement, ça veut dire...
Elle est condamnée à faire du constat.
Là, on est... ça fait... On a presque 20 minutes, on fait que des constats. Parce que le constat, il est clair. On est un régime, on a un régime, on a un pouvoir qui ne soucie que de sa pérennité, de rester le pouvoir, de rester dans le pouvoir, de garder les privilèges qu'il a. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce régime nous donne un tapis rouge, de dire, voilà, je vous donne la démocratie, l'alternance au pouvoir et la démocratie. Tout ça veut dire ça s'arrache. Et il faut poser la question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, je pense, depuis l'ouverture d'octobre 1988, donc ça fait 27 ans, depuis que les partis politiques existent, les associations, les syndicats, c'est le moment un peu de dresser un petit bilan lucide et objectif de voir pour qu'on n'arrive pas à s'imposer, à créer ce rapport de force. Parce que tant qu'il n'y a pas un rapport de force de la part de la société, rien ne peut changer. Le pouvoir ça veut dire ouvrir les espaces de débat, ne peut pas permettre, si les syndicats autonomes ne sont pas mobilisés, organisés, imposer un rapport de force, et bien ils ne seront jamais, ils ne vont pas assister à la tripartite. C'est le cas pour nous, tant que société civile, association de jeunes, Ligue des droits humains, association féministe. S'il n'y a pas ce rapport de force, on ne peut pas peser sur la politique nationale. Et donc le défi aujourd'hui, la dynamique, elle est là. L'énergie, elle existe. Ça bouge quand même, ce qui se passe un peu partout, des mouvements de contestation, commençant par le mouvement des chômeurs, gaz de schiste, mouvement féministe, quand même, il y a la loi. Qu'on peut parler sur le
criminalisant,
voilà. Donc tout ça, quand même, ça veut dire il y a des mouvements, il y a des résistances. Mais le défi aujourd'hui, comment canaliser, comment rassembler ces énergies dispersées pour créer une force, un rapport de force. Donc on est appelé à revoir notre stratégie et notre vision de militer sur le terrain. Sinon, le pouvoir aujourd'hui, il est là, il gère des crises et effectivement, il n'a pas de planification. Il n'a pas de stratégie à moyen terme, donc il gère des crises. C'est à nous aujourd'hui de voir, même parti politique, démocratique, syndicat autonome, de voir, ça veut dire en moi de la solidarité, c'est très important, je termine là-dessus concernant ce point, la solidarité elle est très importante. Le mouvement, la marche des enseignants, de la dignité, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il n'y avait pas une solidarité vraiment sur le terrain. Le mouvement de l'intersyndical, il a mené une grève, un mouvement extraordinaire, mais il n'y avait pas une solidarité vraiment sur le terrain. On assiste à des journalistes qui sont arrêtés,
il n'y avait pas
voilà, donc des militants. Donc c'est ça notre il y a une faiblesse. En quelque sorte, la force du pouvoir aussi réside dans la division de la société. Bien sûr, cela n'est pas tombé du ciel. C'est un fruit, c'est un résultat de la politique. C'est planifié par le pouvoir d'affaiblir, d'atomiser tout ce qui bouge, tout ce qui bouge dans la société. Moi, je suis optimiste au fait. Il y a de la dynamique. Maintenant, c'est comment canaliser et nous imposer sur le terrain pour qu'il y ait un changement dans ce contexte national et régional, surtout, qui est très inquiétant.
Justement,
non, ce que j'ai envie de faire une remarque pour Wahab, c'est dans le sens, quand on parle du gouvernement, moi je suis désolé, c'est un gouvernement compétent pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, il ne faut jamais les incriminer, eux, ils sont même super intelligents pour nous imposer un calendrier de fonctionnement.
Mais par rapport à leurs objectifs,
ils sont très très cohérents. La différence et l'opposition que j'ai, c'est les objectifs qu'ils veulent atteindre, ça ne m'arrange pas moi. Et c'est moi qui est incompétent de les remettre en arrière. Mais sinon, eux, ils sont très cohérents. Il ne faut pas dire que c'est un gouvernement. C'est un gouvernement qui sait créer une crise, qui sait gérer une crise et qui sait se défendre dans une crise. Et il a des compétences incroyables et une intelligence indéfectible. Ils sont très très compétents pour atteindre leurs objectifs. Et la preuve, ils nous ont mis en défait depuis longtemps.
Y compris quand il y a la cacophonie entre les ministres, etc.
Donc, et oui, des fois, c'est des enjeux entre eux. Attention, des cacophonies, c'est des petits intérêts. Quand la société se lève et s'arrange directement. Mais aujourd'hui, avec le mouvement social, ils sont unis.
Mais Achor,
ils sont divisés
lorsqu'on
recule, on les laisse. Achor, mais lorsqu'on s'unit, ils sont unis contre nous.
Un gouvernement
ils sont très mobilisés contre nous. Ça, il faut bien le faire. Donc, c'est nous qui manquons de lisibilité des événements et aussi on manque de visibilité de nos objectifs.
Oui, mais on n'a rien du tout. Machiavel lui-même, ça fait quand même des siècles, depuis le 16e siècle, il le disait. C'est-à-dire, le travail politique, Bayen, c'est clair. Ouais. Un pouvoir, il est dans sa logique de pouvoir. D'accord. Oui. La société civile ou le mouvement associatif et la classe politique, elle est aussi dans sa logique. La question qui se pose, on est d'accord, personnellement, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire concernant les comme quoi il est intelligent. J'ai intelligent, c'est pas mon problème. Un à l'essentiel, il a des objectifs, il essaye de les concrétiser, etc. Mmh. Le problème qui m'intéresse, comment se fait-il cette classe politique, c'est-à-dire cet autre partenaire qui est la classe politique et cet autre partenaire qui est la société civile, n'arrive pas à créer ce que disait Abdelwahab, ce rapport de force. Et mais parce que ce pouvoir, il a aussi utilisé la corruption et les gens marchent dessus, c'est-à-dire là-dessus, l'histoire des allégeances. Mais il ne faut pas non plus diaboliser Agda, il me semble, Anaya, dans l'air ce pouvoir-là. Il y a beaucoup de défaillances de l'autre côté de
Donc, Havela, donc pour résumer pour la première partie, pour la première partie, pour résumer pour la première partie, donc l'État, le gouvernement qui est dans sa logique de rester au pouvoir, mais dans
ça.
La...
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Dans un gouvernement démocratique,
il n'a pas pour objectif de rester au pouvoir. Non,
mais
il
a dit que c'était un gouvernement démocratique.
Voilà, moi, j'aspire à ça.
Une réalité qui n'existe pas en Algérie.
Parce que là, vous êtes en train de renverser l'équation.
Non, il y a des éléments éclairés dans la société
civile. La société se bat sur le terrain. La société civile se construit, se bat sur le terrain. On ne va pas renverser
le rôle d'un gouvernement et de gérer et de bien gérer et de répondre.
Oui, je maîtrise bien. Je maîtrise bien le concept.
Le rôle d'un gouvernement, c'est de répondre et de gérer bien son pays.
Et même de réprimer.
Réprimer, c'est pas un gouvernement. Un gouvernement n'est pas appelé à réprimer. On va revenir
à la deuxième partie.
Dans la deuxième partie.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs, auditrices, on revient vers vous pour la deuxième partie de l'émission Café des Libertés. Je rappelle que nous avons parmi nous Eder Achour, secrétaire général du CLA, du syndicat du CLA, Saïd Salhin, vice-président de l'ADDH El Zahouane, Hafid Abiyar, journaliste au quotidien Liberté, et Abdouhab Fersaoui, président de l'association RAGE. Donc, dans la première partie, on a abordé toutes les questions, de tout ce qui a été, de ce que vous retenez de 2016, et aussi avec tout est dans le rouge, les questions des libertés, des atteintes aux libertés, les atteintes syndicales, les syndicats, la vie syndicale, la crise économique. J'aimerais bien qu'on revienne sur ces aspects, mais en 2016, il y avait aussi sur l'aspect aussi de... J'aimerais bien qu'on aborde d'une question, l'amendement de la Constitution, justement, qui est censé être, qui est censé apporter des réponses à cette question des atteintes aux libertés, de garantir la liberté aussi sur l'aspect, plusieurs aspects. Qu'en est-il réellement sur ces amendements de la Constitution, Saïd?
Sure, pour la Constitution, moi, ce que je voulais dire, d'abord, je voulais dire que le processus lui-même a été perverti. Comment perverti? Parce qu'en fin de compte, les réformes, entre parenthèses, politiques ont commencé, ont été annoncées en 2011. Suite au discours du président de la République, dans le sillage, entre parenthèses, encore une fois, du printemps arabe. Et qu'est-ce qui a été annoncé à l'époque? Il a été annoncé des réformes politiques. Et nous, déjà, dès le moment déjà, on a déjà plaidé pour la réforme de la Constitution. Pour une réforme, si vous voulez, carrément radical du dispositif constitutionnel et législatif algérien. Qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement à l'époque? Au lieu de réformer la Constitution, il a commencé à réformer les lois cadres. Toutes les lois qui touchent à la vie démocratique ont été changées entre 2011 et 2014. La loi des associations, partis politiques, médias, code pénal, code procédure pénale. Après, on arrive, on réforme aussi la Constitution et maintenant, ils sont en train de refaire toutes les lois. Toutes les lois. Les lois qui ont été réformées en 2011-2012, ils sont encore maintenant en train d'être amendés, d'être réformés. Et ça, c'est un processus qui démontre la mauvaise foi, justement, du gouvernement. En fin de compte, le gouvernement ne veut pas aller vers un changement radical, vers un changement effectif du cadre juridique et législatif national. Parce qu'on ne peut pas changer une loi chaque année, sinon chaque deux ans. On prend le code des procédures pénales qui vient d'être amendé la semaine passée. Il a été déjà amendé. Il a été déjà amendé déjà en 2012. La loi des associations, elle va être amendée. Le code des élections, il a été déjà amendé en 2012. On va encore l'amender en 2014. Il est déjà amendé. Et encore beaucoup d'autres codes. Donc, en fin de compte, on perd notre temps dans les changements des lois. On perd notre temps dans les amendements au point où la loi maintenant a perdu toute sa crédibilité. Au point où maintenant la Constitution elle-même a perdu toute sa crédibilité. C'est devenu un texte comme tous les autres textes. Bien que dans la nouvelle Constitution, il y a encore de nouvelles garanties, il y a encore de nouvelles dispositions, mais par rapport à la Constitution, par rapport à la loi, on agit, je voulais aussi évoquer une autre loi, c'est l'effectivité du droit, des lois. On a des lois, on a des textes, on a des garanties, mais qui ne sont pas mises en pratique, qui ne sont pas effectives.
Mais qu'est-ce qui fait que ces lois ne sont pas mises en pratique?
Parce qu'il y a un problème de fond, c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. On n'a pas encore un système de gouvernance où la séparation des pouvoirs est effective. On a encore tous les pouvoirs qui sont concentrés entre les mains du pouvoir exécutif. Réellement, on n'a pas de pouvoir législatif réellement indépendant. On n'a pas de justice indépendante jusqu'à maintenant.
Je pense, ça veut dire, sur ce point, en Algérie, donc, il y a une façade démocratique. Ça veut dire, on organise des élections à tous les niveaux, on respecte les délais, il y a la révision des lois et tout ça pour, ça veut dire, ce qu'on appelle, si on peut dire, tout changer pour que rien ne change vraiment à l'intérieur. Donc, il fait le semblant de changement, de réforme et tout, mais réellement, ce ne sont pas des réformes. Même, comme vous venez de dire, même s'il y a des lois, qui sont positifs, qui sont bons, mais le problème, c'est l'application. Mmh. Ça veut dire qu'on n'applique pas. La loi, par exemple, 2.0, c'est une loi qu'on a jugée liberticide. Même les articles qui sont... Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté. Quand on dépose un dossier de mise en conformité, logiquement, ils vont nous donner un récépissé de dépôt, mais ils ne le font pas. Donc, la révision de la Constitution, c'est une énième manœuvre de la part du pouvoir, justement pour gagner du temps, pour créer un semblant dynamisme et activité politique, pour gagner du temps. et voilà, et régler surtout, ça veut dire des équilibres internes au sérail du pouvoir. Pour moi, la réforme de la Constitution, oui, il y a des acquis, mais que je considère que c'est des acquis, comme l'officialisation de Temazir, c'est tout, comme par exemple...
La constitutionnalisation.
La constitutionnalisation, ça veut dire de revenir aux deux mandats, tout ça, c'est quand même c'est des choses qu'on peut les qualifier positives. Ils étaient dans l'obligation de faire ça, ils n'avaient pas de choix, c'était pas un cadeau. Mais malheureusement, la loi, la constitution en Algérie a perdu sa valeur parce qu'on a connu chaque président presque il a sa propre constitution. Le président actuel est là, je ne sais pas combien de constitutions, il a fait deux constitutions. Donc, je pense, ça c'est des réformes qui ne peuvent pas aller très loin. Il faut réfléchir à amorcer, ça veut dire qu'il faut amorcer un processus de réforme démocratique sérieux avec l'implication et la participation de toutes les forces vives de la société, partis politiques, syndicats, associations. On va aborder et réformer par exemple la loi sur les associations. Logiquement, ça sera le fruit de débats, de concertations entre les associations. La loi sur les élections, donc il faut associer les partis politiques. Donc malheureusement, tout ce qu'ils font, toutes ces réformes soient de constitution et loi, donc ils le mènent d'une manière unilatérale et c'est pour cela qu'il y a toujours de la contestation, c'est pour cela qu'aujourd'hui il y aura de la contestation, des manifestations sur le terrain, il y aura toujours les Algériens qui s'expriment, qui manifestent dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol et le refus de la situation actuelle sur tous les plans.
C'est une réforme qui peut être qualifiée de réforme conjoncturelle. C'est-à-dire qu'ils répondent à un moment de, c'est-à-dire pour régler certaines questions. Mais je sais, mais dans cette constitution, il y a la dépénalisation de l'acte de délit de presse. Mais qu'en est-il justement? Il n'a pas été mis en œuvre. Le cas de Tamel, c'est un cas qui a fait en sorte que qui devait être...
À l'origine, quand une constitution ou n'importe quelle loi, y compris les lois ou le pacte social, puisque tout à l'heure on parlait à la tripartite, à partir du moment où les premiers concernés ne sont pas concertés, on ne leur donne pas leur... on ne leur demande pas leur avis. Donc il faut toujours s'attendre à un texte de loi, même s'il est très positif, il ne reflète pas la réalité. Il ne reflète pas les revendications. Il ne reflète pas les débats. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Maintenant, pour répondre à votre question concernant la Constitution, je répondrai indirectement. Je répondrai en citant Montesquieu qui dit que même si une Constitution est des plus merveilleuses, si nous n'avons pas un peuple éclairé, c'est-à-dire dans l'ignorance, on ne peut pas avancer. Hadi Wahda, je ne suis pas en train ni de justifier l'un ou l'autre. Deuxièmement, on parle de société. Dans la société, il y a des gens et il y a des gens. Il y a certaines franges de la société qui ont toute la latitude de réagir comme ils le veulent. Et je parle particulièrement soit des islamistes ou ceux qui sont manipulés par les islamistes. Ou conservateurs, bien sûr. Alors, il y a eu l'histoire, la preuve. L'Algérie de 2016, on parle de rien, on parle de avec le fameux truc, comment on appelle ça, le supplément alimentaire qui porte un nom l'akhor. Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie au fameux laser. Win Muktub Allahu Akbar, c'est quoi ça? Est-ce que nous sommes une population qui vit son siècle ou là nous sommes sous l'effet, dans l'ignorance et sous l'effet de n'importe quelle force?
C'est une société qui en crise de valeurs,
voilà,
et de.
Exactement.
Elle ne sait pas où, c'est-à-dire, elle ne sait pas comment voir son avenir. Elle est en crise.
Et pour revenir à ce que tout à l'heure on parlait, c'est-à-dire, on parlait un peu tout à l'heure sur l'histoire, comment ça s'appelle? Sur l'histoire, la fameuse grève qui s'est terminée par les émeutes, personnellement, j'ai un avis. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'utilisation des réseaux sociaux à des fins subversives et de déstabilisation du pays. Il y a la géopolitique qui joue, il y a le contexte international et régional qui joue en défaveur en Algérie, mais en même temps, il y a toutes ces maladresses et toutes ces erreurs qu'on est en train de commettre ou que le gouvernement algérien est en train de commettre. L'histoire, les émeutes ou la grève, c'est possible que ce soit initié par des éléments liés au pouvoir ou là au pouvoir. C'est une des hypothèses que je retiens personnellement. Mais c'est possible aussi que ce soit d'autres partis. Bien sûr, quand un agent en dit les parties extérieures, les parties intérieures, pour moi, c'est pas crédible. Et pourtant, il faut revenir au contexte international et régional, toutes les attaques qu'il y a contre l'Algérie. Donc, c'est un argument qui peut être valable. Mais cela dit, quelle que soit l'origine ou la destination, t'as les gens qui ont manipulé cette émeute, etc., en tout cas, le gouvernement est gagnant. L'intersyndicale qui était sur le point d'organiser donc une grève pour des revendications organisées, pacifiques, etc., eh ben, elle a remis ça, elle a reporté son action. Donc, toutes les actions qui demandent négociation, qui demandent discussion, on ne les écoute pas. Ça veut dire que la société est livrée à elle-même, ça veut dire, autrement dit, place à l'émeute. Or, l'émeute,
qu'est-ce qu'elle ramène ?
Est-ce qu'on
retient de tout ça ? C'est, oui. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a absence de canaux de communication.
Complètement.
Et aussi, la société...
Il y a des canaux. Mais ce sont des canaux préfabriqués.
Je parle de la société, de médiation, des représentants, des acteurs de la société. C'est-à-dire, il n'y a pas
ce qu'on retient.
On parle de société, c'est-à-dire de représentants réels de société.
Parce que la société, elle est toujours, je parle du mouvement associatif ou des partis politiques, ils travaillent toujours en fonction de la logique de ce système. Normalement, chacun doit avoir sa propre logique. Un mouvement associatif, il doit avoir son programme, ses objectifs. Ah, vous vous rendez compte, 2017 ou la 2016, des partis politiques qui vous parlent, alors les références, 1er novembre 54, ou alors le programme, t'as le président de la République. Si ton programme, c'est le programme, pourquoi tu crées un parti politique ? On est encore là, ce n'est pas normal cette situation.
En fait, oui, bien sûr, on est...
Bon,
oui.
Moi j'ai envie de faire une remarque d'abord, c'est par rapport quand on parle de la constitution, de la loi, etc., il faut en parler de l'état de droit. Un état de droit, c'est celui au moins qui respecte les lois qu'il établit lui-même. Or que c'est lui qui ne les applique pas, qui ne les respecte pas, etc. Donc ça, c'est la notion de l'État.
Faire respecter la loi aussi, c'est le rôle de la société.
Donc on est d'accord, on n'est pas à l'état de
l'état de droit. Donc, deuxième élément, ce qu'il faut comprendre, que tout ce qui gère tout ça, c'est le rapport de force. Si on oublie la logique de rapport de force, on n'a rien compris à la logique, y compris toutes ces réformes et tous les avantages qu'on a eus au niveau de la loi, même s'ils ne sont pas respectés, ne sont pas appliqués, ils sont dus à un rapport de force, à des événements qui ont eu lieu en 2011. Si on a eu celle de 88, de 89, c'est parce qu'il y a eu les événements de 88. C'est que ça, c'est la logique, il faut dire, que la seule loi qui est juste dans ce monde, c'est la logique des rapports de force. Donc, aujourd'hui, on doit se dire, notre investissement doit être dans la constitution, dans la construction de ce rapport de force réel, au niveau pour la construction d'un rapport de force réel. Deuxième élément, parce que même quand on parle de l'opposition politique en Algérie, on doit comprendre une chose qui n'a pas d'opposition économique. C'est que c'est le gouvernement là est libéral, l'opposition qu'on a en Algérie, il est ultra-libéral. Il demande au gouvernement d'accélérer plus ses réformes. Il demande plus d'ouverture à ce gouvernement. C'est que les seuls points positifs qu'il a peut-être ce gouvernement dans la logique nationaliste de défense d'économie nationale, de la souveraineté nationale, l'opposition qu'on a au niveau politique, c'est une opposition contre ce qu'il veut maintenir comme acquis. Et ça, on doit le comprendre d'abord au niveau de l'opposition politique qu'on a en Algérie, en majorité, dans sa majorité, l'opposition politique, il n'est pas économique, c'est juste au niveau de l'alternative au pouvoir, mais pas au niveau de l'alternative économique et sociale pour l'Algérie. Ça, on doit le comprendre. Deuxième élément qu'on doit comprendre, il y a des changements de valeurs au niveau de la société, qu'on le veuille ou non. Ce n'est plus la même culture que la nouvelle génération n'est pas la même avec la nôtre. Si on n'arrive pas à décortiquer la nouvelle valeur qui s'installe au niveau de la société avec la nouvelle jeunesse, que ce soit en termes de culture, que ce soit en termes de moyens de communication, on sera toujours out. Donc, c'est de notre rôle aujourd'hui d'investir et de comprendre les nouvelles valeurs et le nouveau comportement de la société Et je parle, quand je parle de la société d'aujourd'hui, je parle de la jeunesse d'aujourd'hui. On doit se remettre en cause, y compris notre crédibilité et notre façon de vouloir représenter cette société. Il y en a peut-être les réseaux sociaux, il faut les prendre en considération. C'est... Le nouveau système éducatif, la réforme au niveau international, la mondialisation, les guerres impérialistes qui se passent à l'échelle mondiale, on doit les comprendre. On doit adapter notre discours pour expliquer les enjeux d'aujourd'hui, parce que c'est des logiques d'intérêt. Justement, moi, je dis, le moteur de l'histoire, c'est l'intérêt. Et on doit savoir organiser la société autour des intérêts communs.
Justement, la société
qui s'oppose avec l'autre clan qui est une autre logique d'intérêt, qui construit son rapport de force à ce niveau.
Justement,
à mon sens, moi, je vous dis, ce qui marque l'année 2017, même quand je parle de la retraite, je parle, mais moi, je considère là, la réforme de 2017, à mon sens, c'est le code des investissements et le jeu et l'enjeu du foncier. C'est la loi la plus dangereuse et l'autonomie qu'on veut donner pour les communes. C'est la vente de tous les biens des Algériens. La grève, ce qui m'a marqué moi dans la grève des commerçants, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un État souverain. Il est défini. On est entre les mains des commerçants. L'État ne peut pas subvenir au minimum de nos besoins. Ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'on n'a plus de socle, ni de réseau de distribution publique, etc. Donc, on a tout mis entre les mains des privés. Aujourd'hui, c'est les commerçants qui peuvent faire sauter ce gouvernement avec deux journées de grève nationale.
Entre les mains des commerçants, on est entre les mains des commerçants, on est entre les mains des importateurs, on est entre les mains de ce qu'on appelle aujourd'hui l'oligarchie.
Oui, mais j'ai envie de souligner la souveraineté de l'État qui a disparu. Il n'a qu'un seul moyen, c'est le moyen de répression. Les investissements de l'État sont au niveau des moyens de répression et des forces de l'ordre. D'ailleurs, Jeannot, j'ai entendu ça, que la seule augmentation après la politique d'austérité, etc., j'ai entendu que le secteur militaire a eu une augmentation de 17% à partir de janvier. Ça, il faut savoir le lire aussi.
Donc, il y a une chose à retenir, c'est qu'après la crise des années 90, a fait que, justement, la souveraineté de l'État, c'est à travers des instruments, des régulations et de souveraineté, telles que les sociétés économiques, la force économique de l'État, mais elle n'est plus là dans cette logique.
Écoutez, dans les années 80, il y a eu ce qu'on appelle les lois sociales, n'est-ce pas, Aider? Les lois sociales, c'était quoi?
Mais on peut pas.
Le contexte international a changé. Donc, je veux dire, le gouvernement algérien ou l'État algérien avait, il s'était mis d'accord pour aller vers ce qu'on appelle la voie libérale. Mais à l'époque, ça allait doucement, etc. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Depuis presque une vingtaine d'années, le phénomène de la corruption a pris un élan gigantesque où on a effectivement acheté les gens. On disait les rapports de force. Ils ont créé un rapport de force en leur faveur, mais au détriment de qui? Au détriment de ce qu'on appelle les couches populaires, la classe moyenne, etc. C'est effectivement un choix qui a été pris depuis 1999. Je ne peux pas être plus précise que cela, n'est-ce pas? Donc, ça a été un choix. Aujourd'hui, on se pose la question, où est-ce qu'on va? On a l'impression d'aller contre le mur. D'accord?
Justement,
je vais ajouter quelque chose. Ça veut dire, c'est vrai, il y a cette question que vous venez de citer, le commerçant, l'oligarchie et tout, mais ça veut dire, c'est dû à quoi? C'est dû au désengagement de l'État de ses rôles, de ses missions dans la société, de régulation et tout. Donc l'État, en quelque sorte, on peut dire oui, en quelque sorte, ça veut dire il a une vision, il a une planification, donc il veut laisser ça veut dire qu'il y ait un manque d'organisation, laisser le chemin à l'anarchie. Donc pour empêcher à ce qu'il y ait une organisation, pour empêcher à ce qu'il y ait la construction de ce rapport de force dans la société. Parce qu'il utilise des cartes aujourd'hui, il utilise des cartes qui
qui essaie à chaque fois d'étouffer, de réprimer, d'affaiblir à chaque fois la contestation citoyenne, le discours de la peur. Donc, ce qui s'est passé derrière moi à Béjaïa, ce qui s'est passé avec les vacances, vraiment, c'est quelque chose aberrant. Ça veut dire un petit mouvement des lycéens. Tout de suite, le ministère de l'Éducation a décidé de prolonger les vacances. Donc, sous prétexte qu'il y a la menace étrangère. Donc, il y a cette carte qui est utilisée par le pouvoir algérien, la carte de la peur. Attention à la déstabilisation du pays. Attention à la main étrangère. On est visé. Voir ce qui se passe dans des pays voisins, en Syrie, en Libye. Donc, de faire le choix entre la peste et le choléra, soit on est là sur le pouvoir, on accepte ce pouvoir, soit si on fait quelque chose.
Ce type de discours, c'est notre rôle de déconstruire.
Voilà.
C'est d'expliquer que la main invisible et la main de l'étranger est là, et c'est le gouvernement qui la ramène.
C'est pas nous, effectivement.
C'est la vente du Sahara pour les multinationales, c'est la mise à la disposition du foncier algérien pour les investissements directs étrangers, c'est la vente de tous les terrains privés, c'est le fait de parasiter tous les investissements publics qui sont octroyés à Haddad ou à Rebrab ou à quelqu'un d'autre.
Même le code
mais c'est ça qu'il faut décortiquer. C'est notre déconstruire et d'expliquer c'est quoi la souveraineté nationale. Voilà la souveraineté nationale qu'il nous raconte. Voici les principes du 1er novembre sur lesquels il nous chante jour et nuit. Les voilà comment ils sont en train de...
Mais
de
le drame de l'Algérie, on est passé d'une extrême à une autre. Il était question à l'époque de ce qu'on appelle l'option socialiste, bon, qui était loin de la véritable option socialiste, mais du moins il y avait le côté social. Et donc, à partir de l'année 80, on est passé à une autre extrême. Et les extrêmes, ça, on ne peut pas évoluer dans les extrêmes. Normalement, il aurait fallu, avec le retrait de l'État sur certains secteurs, normalement, il fallait veiller à ce que les sociétés privées jouent le rôle. Parce qu'effectivement, le grand drame aussi de l'Algérie, c'est que le privé a été tenu à l'écart. Et donc, les ambitions, tout ça, et sont revenus, et aujourd'hui, avec force. Grâce à ce que je disais tout à l'heure, grâce au contexte international, où il y a l'offensive ultralibérale, mais aussi grâce à la corruption, grâce au silence complice par rapport aux importateurs, etc. Et donc, c'est pour ça que je disais, en termes d'avenir, il y a de grands dangers et de grandes interrogations.
Donc, il y a beaucoup de choses par rapport à l'avenir, même sur le plan économique. Après comme vous disiez, l'infitah, il n'y avait pas un investissement réel de l'État, justement, pour avoir cette force de régulation, mais aussi de cette liberté à la société de se reconstruire elle-même autour d'une vraie politique économique basée même sur le privé qui va jouer le rôle c'est-à-dire de proportionnel, oui, même si
dire,
chacun...
Il faut dire qu'il y a une politique économique, il ne faut pas dire qu'il y a... Il y a une politique économique qui s'inscrit, qui se définit d'année en année par le désengagement de l'État.
C'est un fait.
Mais ça, c'est une politique économique.
Oui,
c'est un fait. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de politique économique. Il y a une politique économique.
Où les choix ont été...
Le choix a été fait, il a été réfléchi. Ils sont en train de mettre chaque année...
Ils ont un agenda.
Des comptes conditions nécessaires pour qu'ils ne fassent accepter leur réforme.
Et si les syndicats ne réagissent pas,
lorsqu'ils ont privatisé le transport, qui est un truc stratégique pour l'État, est-ce qu'ils ont demandé notre avis par rapport à la privatisation des hydrocarbures, par rapport à l'électricité ou autre chose?
Mais un des défis pour 2017, c'est justement cette volonté de remettre en cause le code de travail, le nouveau code de travail, parce qu'on va on va arriver à terme de l'émission. Justement, rapidement, un commentaire sur ça, sur le nouveau code de travail.
Le nouveau code de travail, en deux mots, c'est un code du travail de précarisation d'emploi. C'est la précarisation de la relation du travail. Le code du travail...
À travers les contrats
déterminés. Donc, c'est ce qui est important dans ce code de travail, c'est ce qu'ils veulent réformer avec la restriction de toutes les libertés syndicales. C'est aujourd'hui, on a le droit de dire non, demain, on n'aura même pas le droit de dire non. Donc...
Donc, un des défis majeurs pour 2017, pour les syndicats, pour les travailleurs, c'était de défendre leur...
j'ai envie de dire, c'est qu'avant le Code du travail, il a été élaboré et né pour défendre les travailleurs. Aujourd'hui, on est en train d'assister dans le cadre de ces réformes, et ce n'est pas spécifique à l'Algérie, ça s'est passé en France et ailleurs, on est en train d'élaborer un Code des patrons.
Justement.
Ce n'est plus un Code du travail, c'est des travailleurs, c'est un Code des patrons.
Oui,
c'est comme ça qu'il faut
moi, j'aimerais dire que normalement, dans une société, ce qu'on appelle entre guillemets équilibrée, il y a ce qu'on appelle un pouvoir ou un système, et il y a donc les partenaires de l'autre côté, donc, et la société. C'est vrai que l'idéal serait, et l'Algérie, elle a tout à gagner à ce que la société civile et ses différentes organisations, que ce soit syndicales, politiques, etc., soient organisées pour faire face à n'importe quelle menace, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et en même temps, une société organisée, je pense que c'est le meilleur rempart d'un pays.
Justement, c'est vrai, l'organisation, c'est la force de tous, c'est la vraie force d'un pays. Donc,
pense au-delà de l'organisation, il y a aussi, et ça c'est une faiblesse aussi de la société civile, c'est justement les convergences des luttes. Aujourd'hui, il y a un problème en termes justement des convergences. Aujourd'hui, on assiste à des luttes corporatistes, à des luttes segmentaires. Il faut aller vers justement les points communs. Il faut aller vers justement les intérêts communs. Et c'est ça aujourd'hui qui peut faire la différence. Et 2017, c'est ça qui peut faire la différence. Et on a vu, je voudrais dire un exemple sur Béjaïa. Béjaïa est un exemple édifiant. Aujourd'hui, moi, je dis que Béjaïa est attaqué. Béjaïa est menacé. Pourquoi? Parce qu'à Béjaïa, ces convergences commencent à se construire sur le terrain. Et vous avez vu, vous avez parlé du contact actuel, vous avez parlé de toutes les luttes sociales, des dynamiques nationales qui ont démarré de Béjaïa. Parce que Béjaïa, aujourd'hui, reste quand même une possibilité.
Donc justement. Le défi maintenant, c'est pour la société de surpasser ces divergences et d'aller de l'avant.
Exactement. Construire des solidarités, construire des convergences, construire justement des plaidoyers communs. Et c'est ça aujourd'hui qui peut faire la différence.
Oui,
et
on a
bon,
tout intérêt.
Je pense Béjaïa, effectivement, elle est menacée, mais pas uniquement Béjaïa, c'est toute l'Algérie qui est menacée. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, il a son agenda. Malheureusement, dans son agenda, l'intérêt général et la construction d'un état de droit, de justice sociale et démocratique, il ne fait pas partie de leurs soucis et de leurs préoccupations. Donc, effectivement, face à l'année 2017, je la trouve que c'est une année vraiment très décisive. Donc, d'où la nécessité, comme tu viens de dire, il faut la convergence des luttes. La question, par exemple, du code de travail, ce n'est pas uniquement une affaire des travailleurs, ce n'est pas uniquement une affaire des syndicats, c'est une affaire de toute la société, de l'étudiant, de lycéen. Aujourd'hui, quand même, il y a l'université, beaucoup d'universités algériennes qui sont au mouvement de grève. Donc, il faut trouver comment créer des jonctions entre ces mouvements des universités, de dire que le code de travail, ça nous concerne tous, on doit travailler. La loi sur les associations, elle sera révisée prochainement. Donc, on doit faire un travail dans ce sens. Et de renforcer les liens de solidarité entre nous. C'est de cette manière qu'on peut créer un rapport de force. Sans rapport de force, effectivement, on ne peut pas aller vraiment
effectivement,
très loin.
Pas très loin.
J'ai envie de dire un mot.
Que
lorsqu'il y a de la misère, il y a de la pauvreté, il y a crise et il y a manque de dialogue, ça mène directement à une explosion sociale. Et cette explosion sociale, on va la vivre en 2017. Notre rôle est que cette explosion ne doit pas s'exploser sur nous et notre foi, elle doit s'exploser sur ceux qui l'ont produit. On doit savoir gérer cette explosion pour la renverser pour ceux qui ont produit cette explosion et ne pas subir cette explosion et notre foi, nous. Et c'est à ce niveau que notre intelligence doit intervenir.
Justement, Achor, parce que là où il y a plus l'espoir existe, parce que cette société...
Heureusement que l'espoir
existe. Là où il y a, justement, là où il y a plus de précarité.
Ceux qui vivent donc, sont ceux qui luttent.
Voilà. Donc,
les gens luttent donc, pour qu'ils puissent apprécier la vie.
C'est bon?
On vous remercie tous. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Donc, le message était qu'il y a de l'espoir, mais c'est l'un des défis, le défi de 2017, c'est comment cette société, comment les acteurs de la société civile pourront trouver surpasser leurs divergences et trouver les dénominateurs communs pour aller de l'avant, justement, pour faire face à cette politique d'austérité, mais aussi au nouveau code de travail, à un système système éducatif qui va répondre justement à cette société qui est de bazar ou de l'anarchie où il n'y a plus de valeur. Donc, chers auditeurs et auditrices, on vous remercie d'être été avec nous pendant l'émission de Café des Libertés. On vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour cette émission de Café des Libertés qui sera tous les samedis à 19h.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.